Arthur Conan Doyle. Mémoire d'un médecin. Amoureux. Il est difficile à un médecin qui passe ses matinées et ses soirées auprès de ses malades, soit que ceux-ci viennent le consulter, soit qu'il aille les visiter à domicile, de trouver le temps de respirer tous les jours un peu d'air pur. S'il veut y arriver, il faut qu'il se lève de très bon matin et qu'il se promène dans les rues à l'heure où les magasins sont fermés, où le jour commence à poindre, donnant aux objets et aux rares promeneurs des formes aussi vagues que des silhouettes dans le brouillard. Cette heure matinale a bien son charme particulier. On ne rencontre que des laitiers ou des facteurs. On possède le trottoir pour soi seul, et les objets les plus banals prennent chaque jour une forme nouvelle. Il semble que la chaussée tout entière, les réverbères et les enseignes se réveillent chaque matin avec une physionomie différente. Dans ces conditions, une ville perdue à l'intérieur des terres peut offrir du charme aux visiteurs, même si elle lui apparaît dans une atmosphère chargée de fumée. Ce n'était pas mon cas, car j'habitais au bord de la mer une petite ville plutôt insignifiante, sans autre charme que celui du voisinage de la côte. D'ailleurs, qui donc aimerait la ville lorsqu'on a la chance de pouvoir s'asseoir sur un banc solitaire à la pointe de la digue et d'admirer l'immense baie bleue, la courbe gracieuse et dorée que forme la plage autour des flots? Je l'adorais, cette mer, lorsque je voyais des bateaux de pêche parsemer sa grande surface. Je l'adorais lorsque passaient au loin des navires élégants qui ressemblaient à de petites taches blanches informes, avec leurs voiles gonflées comme un opulent corsage de femmes. Mais je l'aimais par-dessus tout quand aucun bruit humain ne venait rompre le silence majestueux de la nature et que les rayons du soleil levant planaient lentement sur elle en se frayant un chemin au travers des nuages amoncelés. J'ai vu quelquefois l'horizon voilé par la pluie lorsqu'un léger manteau gris tombe des nuages. Je voyais tomber la pluie de mon promontoire doré. J'ai vu le soleil luire sur les brisants et transverser les grandes vagues vertes en éclairant les taches rouges que forment les couches d'algues marines. Quand on a passé une matinée à contempler ce spectacle, on se sent mieux trempé pour retourner dans une lugubre chambre de malade. On peut affronter l'ennui sombre et mortel de sa profession, le vent dans les cheveux, l'écume de la mer aux lèvres, la plainte de la vague mugissante dans l'oreille. On se croit un homme nouveau et beaucoup plus fort. C'est au cours d'une de ces promenades que je rencontrai mon vieillard pour la première fois. Il s'approcha du banc où j'étais assis au moment où je me levais. Je l'aurais remarqué certainement dans la rue, car il était bien campé, avec une belle prestance et un je ne sais quoi de particulier dans le pli de sa lèvre et son port de tête. Il boitait légèrement en marchant dans l'allée sinueuse et s'appuyait lourdement sur sa canne, comme si ses larges épaules étaient devenues trop pesantes pour ses membres affaiblis. Tandis qu'il s'approchait, je reconnus immédiatement sur son visage, à cette imperceptible teinte bleutée du nez et de la lèvre, qu'il était atteint d'une maladie de cœur. « La montée est un peu dure, monsieur, lui dis-je. En ma qualité de médecin, je me permets de vous conseiller de vous reposer ici avant d'aller plus loin. » Il accueillit mes paroles avec un petit mouvement de tête antique et solennel et s'assit sur le banc. Voyant qu'il n'avait pas envie de parler, je restais silencieux, mais je ne pouvais m'empêcher de l'observer du coin de l'œil, car il personnifiait pour moi le type accompli de la première moitié du siècle, avec son chapeau plat à bord relevé, sa cravate de satin noir, attachée derrière par une boucle, mais surtout avec sa large figure grasse et bien rasée, striée d'une infinité de petites rides. Ses yeux, maintenant affaiblis par l'âge éterne, avaient connu le temps des diligences, ils avaient vu les équipes de terrassiers construire la jetée sous les rayons brûlants du soleil. Ses lèvres avaient souri en dégustant les premiers numéros de Pickwick et en tournant en ridicule son jeune auteur. Le visage même de ce vieillard était un almanach vivant de 70 ans et chacune de ses rides me faisait l'effet d'un sillon tracé par des chagrins privés comme aussi par le malaise de l'époque. Ce pli du front datait peut-être du soulèvement des Indes, sa patte d'oie près des yeux était née sans doute pendant l'hiver de Crimée et je m'imaginais que ce petit faisceau de rides s'était formé à la mort de Gordon. Tandis que je me livrais à toutes ces suppositions plus ou moins folles, le vieux monsieur à la canne était parti, et il me sembla que 70 années de la vie d'une grande nation avaient défilé devant moi ce matin sur le promontoire. Mais il me rappela bien vite à la réalité de la vie. Lorsqu'il eut repris haleine, il tira une lettre de sa poche et, mettant des lunettes à monture de corne, il la lut très attentivement. Sans le moindre coup d'œil indiscret, je reconnus immédiatement une écriture de femme. Lorsqu'il eut fini de parcourir cette lettre, il la relut, puis s'assit. Les coins de ses lèvres s'arquèrent et ses yeux se fixèrent dans le vague en regardant la baie. Il était bien le symbole de l'homme le plus malheureux que j'aie jamais rencontré. La vue de ce visage douloureux me remua jusqu'au fond du cœur, mais comme je le savais peu disposé à parler, au bout d'un moment, je le laissai sur son banc et rentrai chez moi, rappelé par mon déjeuner et par mes malades. Je ne pensais plus à lui jusqu'au lendemain matin, mais à la même heure, je le vis arriver sur la promenade et partager avec moi le banc que je m'étais habitué à considérer comme ma propriété. Il me salua en s'asseyant, mais ne me parut pas plus disposé que la veille à entamer la conversation. Je trouvai un changement en lui depuis 24 heures, d'ailleurs très à son désavantage. Son visage me sembla de plus en plus ridé, fatigué, et la sinistre teinte bleue qui encadrait son nez me parut plus prononcée pendant qu'il montait la côte. Les traits nets de ses joues et de son menton se perdaient dans une barbe naissante qu'il n'avait pas rasée depuis 24 heures. Sa tête large et imposante n'avait plus ce port majestueux qui m'avait frappé au début. Il tenait à la main une lettre, était-ce la même ou une autre, mais toujours d'une écriture de femme. Il paraissait triste et soupirait en la regardant. Son front accusait des plis très marqués et les coins de ses lèvres s'étaient retroussés comme ceux d'un enfant qui va pleurer. J'évitais de le déranger, mais je me demandais, très intrigué, quelle pouvait être la cause d'un tel changement en si peu de temps. Cette étude psychologique m'intéressait si vivement que, le lendemain matin, je guettai mon vieillard. Je le vis à la même heure monter la côte, mais très lentement, le dos voûté et la tête basse. Je fus horrifié à la vue du nouveau changement qui s'était produit. « Je crains que l'air de cette montagne ne vous soit contraire, me risquai-je à lui dire. » Il n'accusa pas le coup directement. Il parut ne pas m'entendre. Il me sembla pourtant qu'il essayait de marmotter une réponse plus ou moins circonstanciée, mais je ne perçus qu'un vague murmure qui s'éteignit dans le silence. Courbé, faible et vieux, il paraissait avoir au moins 10 ans de plus que le jour de notre première rencontre. Mon cœur se serra en voyant le beau vieillard décliner ainsi sous mes yeux. Il tenait encore cette fameuse lettre qu'il dépliait en tremblant. Qui pouvait bien être cette femme dont l'écriture l'émotionnait si fortement? Une fille, peut-être, une petite fille, la seule consolation de ses vieux jours, à moins que... Mais je me reprochais ce jugement téméraire en me disant que, bien légèrement, j'édifiais un roman problématique autour d'un vieillard non rasé et de sa correspondance. Cependant, cette idée me trotta dans la tête toute la journée et j'éprouvais un certain plaisir, mêlé de curiosité, à me représenter ses mains tremblantes, osseuses et teintées de bleu, qui dépliaient le fameux papier si troublant. J'espérais à peine le revoir, car je m'imaginais que, le lendemain, il pourrait à peine sortir de sa chambre et serait sans doute cloué dans son lit. Aussi, grande fut ma surprise, lorsqu'en gagnant mon banc, j'aperçus mon vieillard qui m'avait devancé. En m'approchant, j'eus peine à reconnaître en lui l'homme de la veille. Il portait bien le même chapeau à bord retroussé, la même canne, les mêmes jumelles encadrées de cornes, mais je ne retrouvais plus sa figure pitoyable, ravagée et non rasée. Il était fraîchement rasé, sa bouche avait une expression ferme, ses yeux brillaient et sa tête droite sur ses larges épaules lui donnait la silhouette d'un aigle sur son rocher. Son dos me parut aussi carré et droit que celui d'un grenadier et je le vis faire sauter le gravier du bout de sa canne avec une exubérante désinvolture. Un bouton d'or s'épanouissait à la boutonnière de son pardessus bien brossé et un élégant petit mouchoir de soie rouge sortait de la poche de son gilet. On l'aurait pris pour le fils aîné du vieillard Décati qui était assis là la veille. « Bonjour, monsieur ! Bonjour, monsieur !» me cria-t-il en agitant gaiement sa canne. « Bonjour, répondis-je, comme la baie est belle ce matin. »« Oui, monsieur, mais vous auriez dû la voir juste avant le lever du soleil. » « Comment, vous êtes ici depuis cette heure-là ? » « Oui, on pouvait à peine distinguer son chemin quand je suis sorti. » « Vous me paraissez bien matinal, monsieur. » « Cela dépend des circonstances. » Il cligna de l'œil en me regardant, comme pour me demander si j'étais digne d'entendre une confidence. « La vérité est que ma femme revient aujourd'hui. » Je ne pus certainement pas dissimuler ma stupéfaction. Mes yeux durent lui inspirer confiance, car il s'approcha tout près de moi et commença à me parler à voix basse, confidentiellement, comme s'il voulait empêcher les mouettes d'entendre le grave sujet de notre conversation. « Êtes-vous marié, monsieur ?»« Non. » »« Alors, il vous est difficile de me comprendre. Ma femme et moi sommes mariés depuis près de 50 ans et nous n'avons jamais été séparés, même un jour, jusqu'à maintenant. » « La séparation a été longue ? » demandai-je. « Oui, monsieur, voilà le quatrième jour aujourd'hui. Elle a dû partir en Écosse pour une affaire importante et les médecins ne m'ont pas permis de l'accompagner. Je n'aurais d'ailleurs pas supporté cette interdiction de leur part si ma femme n'avait pas été de leur avis. Enfin, Dieu merci, c'est fini, elle sera ici dans un instant. »« Ici ? » ?»« Oui, ici. » Ce promontoire et ce banc sont de vieux amis à nous, des amis de 30 ans. Les gens chez qui nous habitons ne nous sont pas, à vrai dire, très sympathiques et nous n'avons pas grande intimité avec eux. C'est pour cela que nous préférons nous rencontrer ici. J'ignorais l'heure exacte du train qui devait l'amener. Je voulais être là pour la recevoir si elle avait pris le premier du matin. Dans ce cas, dis-je en me levant. « Non, monsieur, non » insista-t-il. « Je vous supplie de rester si cette causerie intime ne vous ennuie pas. »« Au contraire, elle m'intéresse vivement. »« J'ai vécu si replié sur moi-même depuis quelques jours. »« Ah, quel cauchemar je viens de traverser !»« Vous devez trouver bien étrange qu'un vieux bonhomme comme moi soit aussi tendre de cœur. »« Mais c'est charmant. »« Votre compliment ne me vise pas, monsieur. » Tous les hommes de la terre en seraient au même point si, comme moi, ils avaient eu la bonne fortune d'épouser une femme comme la mienne. En me voyant vieux et cassé, en m'entendant parler de notre union de 40 ans, vous vous imaginez peut-être que ma femme est vieille, elle aussi. Il riait de bon cœur et clignait des yeux d'un air malin. Ma femme est une de ces créatures, voyez-vous, qui conservent toute la jeunesse de leur cœur. Aussi, leur visage ne vieillit jamais. Il reste frais comme à 18 ans. Pour moi, elle est ce qu'elle était lorsqu'elle m'a accordé sa main en 1845. Un peu plus forte peut-être, car comme jeune fille, on lui reprochait la sveltesse de sa taille. Sa situation de fortune était plus brillante que la mienne. Son père m'avait pris chez lui à titre d'employé. Notre mariage a été une vraie idylle, je vous assure. J'ai réussi à conquérir son cœur, mais, chose curieuse, je me demande comment j'ai pu y parvenir. Je crois rêver en pensant que cette délicieuse et douce jeune fille a marché côte à côte avec moi toute la vie et que j'ai été capable de... » Il s'arrêta net et je le regardais étonné. Il tremblait de tous ses membres, ses mains se crispèrent sur le banc et ses pieds se mirent à piétiner nerveusement le gravier. Je compris ce qui se passait. Il essaya de se lever, mais dans son état d'agitation, il ne le put pas. Je fis le geste de lui tendre la main, mais un scrupule de politesse m'arrêta et je détournai la tête du côté de la mer. Un instant après, il était debout et descendait la côte à une vive allure. Une femme venait à nous. Elle était déjà bien près lorsque je l'aperçus, à 30 mètres environ. Je ne sais si je dois me fier à la description qu'il m'en avait faite ou s'y garder d'elle, empreinte dans son cerveau, une image très idéalisée. La personne que j'avais sous les yeux était grande, j'en conviens, mais épaisse, déformée, avec une figure épanouie et rouge à l'excès. Elle portait une jupe ridiculement courte. Le ruban vert de son chapeau me fit loucher, comme aussi sa blouse par trop ample et d'un goût douteux. Me trouvais-je donc en face de la jolie jeune femme annoncée ? Mon cœur fut péniblement impressionné en pensant qu'une femme pareille était bien indigne de son amour. Elle suivait l'allée de son pas ferme pendant qu'il titubait en allant à sa rencontre. Puis, quand ils furent près l'un de l'autre, je remarquai, en regardant discrètement du coin de l'œil, qu'il lui tendait ses deux bras. Elle, intimidée par des effusions en public, se contenta de prendre sa main et de la serrer. En voyant l'expression de sa figure, je me tranquillisais sur le sort de mon vieux monsieur. Dieu veuille qu'un jour, lorsque cette main qui écrit sera tremblante, que mon dos se courbera vers le sol, les yeux d'une femme m'accordent un regard aussi tendre que celui surpris par moi tout à l'heure.